Chapitre 4. Moïse sauvé des eaux. Rien n'est plus démoralisant que l'injustice. Rien ne jette plus d'amertume, plus de haine au cœur. Bertholin semblait injuste à Pauline. Apolline semblait coupable à Bertholin. Elle l'aurait semblé aux yeux de toute la terre. Il ne faut qu'un concours de circonstances pour faire du plus innocent un coupable. Ce n'est que sur du probable et de l'apparent que peuvent juger les hommes avec leurs courtes antennes. On pourrait comparer les crimes à des ballots bien clos. C'est par l'enveloppe que le juge estime le contenu. Et quand, par sa sentence, il l'a déclaré taré et à l'index, et fait jeter à la mer, le ballot, dans sa chute, se brise et s'ouvre sur une roche. Tout ce qu'il recelait remonte à fleur d'eau et paraît en pleine lumière. La balourdise du tribunal devient patente. La foule en ricane amèrement. Alors le juge se drape et se hausse. Et s'écrie, avec son ton archi-épiscopal risible, « Je suis infaillible !» Rongée par un chagrin mortel, Apolline se minait sourdement et se consumait chaque jour. Elle, quelques mois plus tôt, si belle encore, amaigrie, phtisique, comme un spectre, ne sortait qu'à la nuit noire pour éviter les regards méchants. Le voisinage l'aurait crue morte, si de temps en temps, elle n'avait touché un piano délabré et servant de table, triste ruine de son ancienne opulence. On avait même remarqué et retenu cette strophe que souvent elle psalmodiait langoureusement et qu'elle semblait affectionner par-dessus toute. Bourreau, arrêtez ma torture. Le mal a fait mon cœur mauvais. Haine à toi, Dieu, monde, nature. Haine à tout ce que je rêvais. Avant mon corps sur cette route, où le sort le tient garrotté, mon âme expire, je l'avoue, à Satan, pour l'éternité. Ce seul refrain nous montre la disposition d'esprit d'Apolline, et combien la souffrance et le malheur peuvent pervertir la plus belle âme. Elle, douce, bonne, fervente, aimante, religieuse, n'avait plus que du fiel dans la poitrine et du venin à la bouche. Elle haïssait jusqu'à son Créateur, à qui elle reniait sa foi. Elle se vengeait en abandonnant à son tour Dieu qui l'avait abandonné. Quand un être était maltraité à ce point, il n'a plus qu'un rire d'enfer sur sa lèvre dédaigneuse. Tout ce qui est lui fait pitié et provoque son dégoût. Plus une chose est sainte et sacrée, plus elle est révérée de tous, plus il trouve de joie à la profaner, à la fouler aux pieds. Pour le malheureux, le blasphème est une volupté. Le terme de sa grossesse s'approchait, et sa misère devenait profonde. Les 8 premiers mois, elle avait vécu de la maigre somme de Bertholin. Il ne lui restait plus rien. Le soir, elle allait arracher des herbes sauvages, le long des chemins déserts, mais cette nourriture d'âne, si contraire à sa délicatesse, l'avait tellement affaiblie que vers la fin du 9e mois, il lui fut presque impossible de descendre. Ce jeûne, pour ainsi dire, absolu, lui avait donné des éblouissements et une céphalalgie chronique qui par instant dégénérait en folie. Sa démence était sombre, elle avait des déchirements atroces d'estomac, et souvent, il lui prenait des spasmes épileptiques. Quand elle ressentit les premières douleurs de l'enfantement, il y avait 2 jours passés qu'elle n'avait pris aucun aliment. Étendue sur son grabat, dévorée par la faim, elle rongeait la basane d'un vieux livre, privée de raison, exténuée. À la vue de son enfant, sa sombre folie se réveilla et retrempa ses forces. Dressée sur ses pieds, elle l'embrassa et le frappait tour à tour. Elle lui donnait ses mamelles vides. Elle le jetait par terre, pleurait et se couchait sur lui. Enfin, l'ayant enveloppé dans une toile, et mis sous son bras comme un paquet, elle descendit en se traînant. Il était nuit. Sur les 2 heures du matin, Hermann Busenbaum, cultivateur à Vaugirard, se rendant à la halle, perché sur sa charrette et sifflant à Noël, descendait la rue du Four. En approchant d'une des ruelles sales et immondes qui s'y débouchent, il entendit les vagissements d'un enfant nouveau-né. Brusquement, il interrompt son sifflet, lâche un huro accentué à la provençale, et écoute, les cris se prolongeaient, et paraissait sortir d'un égout voisin. Il sauta bas, prête l'oreille à l'embouchure et recule épouvanté. Il court aussitôt avertir de cet étrange événement le corps de garde de la prison de l'abbaye. Le commissaire, par hasard, s'y trouvait à verbaliser sur deux filles de joie, arrêtées pour quelques coups de couteau donnés à un client. Vite, il se mit en tête d'une patrouille. Hermann Busenbaum guidait le caporal portant une lanterne. Arrivé en hâte à l'égout, il y régnait un profond silence, sauf le clapotement des ruisseaux. Le soldat né malin brocardait déjà Busenbaum sur sa prétendue audition, attribuée à la peur. L'autorité en écharpe était prête à invectiver contre le maladroit Goujat qui l'avait déplacé inutilement, quand les cris reprirent de plus belle. La patrouille en vibra et les capucines en sonnèrent. Lance Pessade, qui portait le falot, l'approcha de l'ouverture du cloaque et se penchant, aperçut à l'entrée un paquet blanc, d'où sortaient des gémissements. Un des gardes l'enleva la baïonnette et le tira hors. Alors, Busenbaum et le commissaire, faisant la fille de Pharaon, développèrent la toile et découvrirent un enfant tout nouveau-né. « Oh, mille bon Dieu, voilà un conscrit qui en réchappe d'une sévère !» s'écria la patrouille. « Oh, pauvre petit homme !» répétait la matendrie, le vieux père Busenbaum. C'est ici le cas où les enfants sont vraiment malheureux d'avoir des parents, murmura l'agréable caporal. Messieurs, dit alors le commissaire perspicace, en prenant une pose de calife, un crime a été commis. Explorons. Il se prit à examiner le marmot qui n'avait aucune blessure grave. Au grand contentement de l'armée, après des recherches consciencieuses et dignes d'être entérinées par l'Académie, il fut proclamé à la majorité du genre masculin ou neutre, un sourire de satisfaction se promena sur les lèvres du père Busenbaum. « Que voulez-vous faire de ce petit marmouset ? » dit-il alors au commissaire. « Ma femme en ce moment est en gésine. Voilà trois fois qu'à son grand crève-cœur, cette brave mère ne fait que des morts-nés. Si vous voulez me le confier, je vais sur le champ le lui porter en compensation. Elle en prendra bien soin, et nous l'adopterons. » Au moment où il enlevait l'enfant pour le monter dans sa charrette, il se raidit et expira. Et le commissaire aperçut des gouttes de sang. Approchant le falot et voyant que ses traces se dirigeaient vers le haut de la rue, il ordonna à la patrouille de le suivre. Ses gouttes, quoique semées à d'assez longues distances, suffisaient cependant pour les diriger. Arrivées à la rue Beurrière, elles disparurent, mais ils les retrouvèrent dans cette ruelle, débouchant rue du Vieux Colombier, et suivant toujours attentivement, ils remontèrent jusqu'à la rue Cassette, où les vestiges se prolongeaient encore. Enfin, les traces de sang s'arrêtèrent contre une porte. « C'est ici, messieurs !» cria le commissaire. « Entrons !» Il heurta plusieurs coups de marteau. « Au nom de la loi, ouvrez !» répéta le caporal, en frappant de la crosse de son fusil. Le portier tout éperdu obéit. « Au nom de Dieu, messieurs, quel train ! Oh, que voulez-vous ? Guidez-nous, nous allons faire perquisition. Tenez, voici le sang qui reparaît. « Suivez-moi !» Ils montèrent l'escalier et entrèrent en haut dans un corridor. Là, les traces de sang s'arrêtèrent encore à une porte. « Qui demeure là, monsieur le portier ?»«
Oh, une jeune fille, bonne et sage. »«
Ouvrez donc, au nom de la loi !»« Caporal, faites enfoncer la porte !» Aussitôt, elle s'ouvrit sous le choc des crosses, et le regard avide, pénétrant dans la chambre, vire à la lueur du falot, étendue sur le plancher et baignée dans une mare de sang, une jeune femme, pâle et desséchée. On la releva. Elle était tiède encore. À son retour, sans doute, Apolline s'était abattue de faiblesse, épuisée par une aussi grande perte de sang et par un aussi long trajet. On la transporta sur un brancard à l'hospice de la maternité, nommé vulgairement la Bourbe.